T'as bien capté, bulle-moi. Sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de polar. Sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Sur Libertaire,
t'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, comme l'a dit tout de suite, en tout cas il vous a livré un secret énorme le petit Nicolas en vous dévoilant nos deux invités, en tout cas notre invité Richard Morgiève qui vient de publier la mission aux éditions Joël Losfeld édition, et il vous a dévoilé aussi que Bobolov sera présent pour...
C'était pas évident. Bonjour à tout le monde. C'était pas évident. Hein.
C'était pas évident.
J'ai raté mon avion.
D'accord. Mais ça ne t'empêchera pas de chroniquer quelques polars qui.
Si, j'ai pas oublié mes papiers dans la soute.
D'accord. Richard Morgiève, on est ravis de te retrouver. Ça fait quand même pas mal de temps.
Hein. Ça fait depuis 2021, quoi.
Ouais.
Oh, peut-être qu'on se tutoie, on se voit. Je sais plus.
Tu te souviens pas sans tutoie.
Non, je voulais pas faire les pieds dans le plat.
On est en
décembre 2020 pour parler d'un de mes livres qui s'appelle Cimetière d'étoiles. Voilà.
D'accord.
C'est la dernière fois donc ça fait 4 ans.
On s'est pas vu pour Cherokee.
Mais si, mais c'était après Cimetière d'étoiles.
D'accord. Dis donc, Cimetière d'étoiles, c'est aussi vieux que ça.
Bah ouais. Comme moi.
Comme le temps file. Bon, alors Richard Morgiève, je rappelle, c'est les auditeurs de. Mais t'es venu deux fois déjà. Hein. T'es venu deux fois. T'es venu une fois pour Cherokee et une fois pour Cimetière d'étoiles.
Et ça fait la troisième fois. Et je me demande si j'étais pas venu pour Les Hommes. J'ai un doute.
Non, je crois pas.
Bon, alors ça fait la troisième fois.
Troisième fois. Alors, bon, donc, si vous vous souvenez, amis auditeurs de Bulle Noire, des aventures de Richard Morgiève, il y aura quelques redites, forcément, mais on va essayer de parler peut-être d'autre chose. En tout cas, déjà, il y a un nouveau polar, un nouveau roman qui vient de sortir, La Mission.
Polar, c'est un bon truc, je te dirai pourquoi.
D'accord, on en parlera. C'est vrai que Richard Morgiève, né le 9 juillet 1950, c'était ton anniversaire, il n'y a pas longtemps. Qui avait commencé brillamment dans le polar en 1980, où coup sur coup, mais en l'espace de 6 ans, tu produis 5 polars.
Ouais, en moins. malheureusement pour la littérature.
D'ailleurs, j'ai lu quelque part que tu disais, ouais, mais en fait, bon, je voulais pas faire du polar, j'ai fait un peu de polar comme ça, mais pour montrer que je savais, enfin, tu l'as dit même ici, là,
oui,
que c'était pour montrer que tu savais manier le truc, le genre, les codes du genre, que tu maîtrisais ce truc-là.
En fait, je crois qu'inconsciemment, j'ai écrit des polars, parce que c'est les derniers livres que disait papa, c'était des romans policiers. Comme il a disparu assez vite de mon monde, et trop vite même, je pense que j'ai écrit des polars. C'est à mon père que j'en ai écrit, sans faire des violons, mais je pense que c'est principalement pour ça. Et puis que c'est vrai que c'est top. J'adore le polar, hein, j'adore. Et ce qui me fait trop kiffer, c'est que sur mes vieux jours, je suis revenu sans le vouloir au polar, et que j'ai eu dans l'année les deux prix les plus importants. Je crois que je suis le seul auteur français à les avoir eu dans l'année, sans vouloir du tout. Et sans même penser que j'écrivais des polars.
Ouais,
c'est ça
vrai.
Qui est.
Ouais. C'est vrai que tu as été récompensé. Moi, tu avais déjà été récompensé pour tes romans. Hein,
pour des romans, mais jamais pour des polars.
Mais jamais pour des polars. Donc, c'est en 1980 que tu publies ton premier polar, et c'est Aller les Verts.
Ouais.
Globalement, c'est vrai qu'on a le sentiment que tu racontes toujours, finalement, l'histoire originelle du petit Richard, c'est-à-dire le décès de ta maman quand tu as 7 ans et ton père qui se suicide lorsqu'on en a 13, globalement.
Donc, conseil aux lecteurs d'acheter qu'un seul livre.
Oui, donc il suffit qu'ils achètent un petit tome de dos et puis ça y est, ils ont tout quasiment.
Alors, moi, je sais pas. Enfin, d'abord, je peux pas parler de ce que je fais. Je pense que c'est inévitable. Je pense. Ce que j'essaye de faire, Michel Lebrun, vous connaissez, on l'appelait le pape du polar dans les années 80.
Ouais, ouais.
Michel Lebrun j'ai été le nègre de Michel Lebrun, ce qui est quand même rarissime. Je crois que pour être le nègre, on n'a plus le droit de dire nègre. Alors, donc,
mais oui, mais il écrivait
énormément.
Ouais.
Donc pour être donc, la plume d'un type qui écrit autant que Michel Lebrun, c'était déjà énorme.
C'est incroyable. Tu te souviens des bouquins que tu as écrits?
J'en ai fait qu'un pour lui. Ouais. Et,
de A jusqu'à Z.
Non, on l'a fait à deux.
D'accord.
Et c'était un almanach du film français, sorti dans l'année. J'en avais vu aucun, et Michel non plus. D'ailleurs, mon chef ne voyait aucun film qui critiquait. Donc, je devais faire un boulot spécifique, et un jour, je suis tombé sur un film. J'ai lu l'officiel, tout, les trucs. Au moins, je fais tout pour essayer de comprendre de quoi parlait le film. Je n'y suis pas arrivé. C'est le seul film, donc, que j'ai dit à Michel, allez. Moi, je ne peux pas le faire. Alors, pour en revenir à Michel Lebrun, il m'avait dit, Richard, dès que tu as un succès, refais-le. Donc, je ne pensais pas vraiment avoir un succès, et j'ai un succès. Un livre qui a vraiment très bien marché, pas en polar, qui s'appelait Fausto. On a fait un film, enfin bref. Mmh. Mais moi, je ne peux pas, quoi que tu en dises, moi, je ne peux pas consciemment refaire le même livre, la même histoire, comme Jean Modiano, avec le même style. Il faut que je change, sinon, ce que je fais, c'est vraiment de la merde. Voilà. Mais certainement, inconsciemment, dans la trame, on en revient à ce que tu dis.
Dans la trame, il y a des figures qui reviennent assez régulièrement. Donc, c'est pas que tu écris toujours le même bouquin et tu racontes pas toujours la même histoire, mais en revanche, les figures, et en particulier la figure paternelle et la figure maternelle, ce sont deux figures qui reviennent peu cachées, qui sont derrière. On en parlera dans la mission.
Dans le Cherokee, où il tue ses parents, dans la mission. Enfin, voilà. Où il est orphelin, bien sûr.
Dans la mission, je crois savoir où se cache le
t'es assez fort, tu vas me le dire.
Est-ce que tu le sais pas? Bah, tu vas le découvrir.
Revenir au polar, parce que tu as dit auteur de polar, en parlant de la mission. Ce que j'adore, je suis invité, c'est la seule invitation que j'avais prise parce que j'ai eu des ennuis de santé, j'ai pris ça en mai au festival de Pau, donc c'est un festival de romans noirs, avec un roman La Mission, qui est absolument pas considéré comme un roman noir, donc j'aime bien être
Il y a concernant ton nom de famille, Morgiev, sans vouloir faire le mot lacanien, si on décortique Morgiev, mort, J, si J.
Mort, orgie, Ève.
Ève.
Mort,
J.
Il y a tellement de signifiants. Je pense que c'est le moteur inconscient du fait que je sois devenu écrivain. plus un truc, parce que tu dis que tu es lacanien, mais ma femme est psychanalyste lacanienne, donc
sur un territoire si connu. Si tu nous écoutes
sur un territoire connu, voilà. Mon nom, mon patronyme, puisque c'était encore un patronyme, maintenant la loi a changé, réellement la notion de patronyme a disparu, est super important dans ma constitution d'être humain, d'homme, je dis bien d'homme, et puis d'écrire. C'est clair et net. Et je pense que inconsciemment il y avait un truc assez fort, c'est que papa, notre patronyme de départ c'est Morgievitch, papa l'a pas porté ce nom. Et il est mort peu de temps après avoir changé de nom. Donc c'est moi qui ai, on peut dire, porté le nom. Porté comme un truc, un symbole hiératique, colossal, qui m'a écrasé d'ailleurs. Mmh. Voilà. Et je pense que j'aurais jamais dû écrire sous le nom de Morgiev. Je n'aurais jamais dû le faire. Mais bon, c'est fait, c'est fait.
Ah bah, dis donc, c'est maintenant que tu te réveilles.
Une ou deux fois, j'ai utilisé d'autres noms, mais c'est des subterfuges. C'est chiant, quoi, ça. Bon, bref.
Bon, la mission, on va tout de suite résumer ce que c'est que la mission. Je vais essayer de résumer.
Vas-y, c'est fort.
En gros, le personnage principal a 17 ans. Il est... Et pas pupille de la nation, d'ailleurs, il est orphelin, il n'a pas de parents, il va d'une ferme à... Il est garçon de ferme, hein, comme on disait à l'époque. Voilà. Il se trouve qu'on est le 6 juin 1944, bon, bah, c'est une date... Même Bobolov doit savoir à quoi correspond le 1944.
Non, il ne sait pas.
Il ne sait pas. Et c'est l'anniversaire c'est son jour d'anniversaire. Et il décide de piquer une tête... dans une petite rivière qu'il y a là, avant de... D'ailleurs, il hésite à aller dans une ferme où, de toute façon, il est extrêmement maltraité. Et il a 17 ans, hein, je crois.
C'est ça, tous
les deux. Et il se retrouve avec des maquisards.
Voilà. C'est le destin.
Et c'est le destin. Et finalement, il est... il est embringué dans l'histoire avec des maquisards. Mais il va se passer plein de choses. Il sera pas en sucette. Il va rencontrer. Ce qui est d'ailleurs toujours formidable dans tes romans, Richard, c'est que on sait jamais où tu nous emmènes, quoi. Tu nous prends au départ par la main, puis après on va en surprise en surprise. Rien n'est balisé. C'est un plaisir énorme, évidemment, et immense de lire tes romans et la mission en particulier. Mais c'est parce que justement, on n'est jamais en terrain connu.
Moi, j'ai une loi. Hein. Je trouve que on est tous lecteurs, enfin Alain, toi et moi, on lit. Et ce que j'aime pas, c'est quand tu sais, pas besoin de lire le livre. Et il y a plein de livres, t'as pas besoin de les lire. T'as pas besoin de les lire parce que l'auteur se casse tellement pas le cul que. Voilà. Donc, l'autre maladie du lecteur, c'est d'écrire à la place de l'écrivain. Hein, on veut tous voler l'histoire de l'écrivain. Alors, moi, franchement, j'essaie de pas me faire voler mon histoire par le lecteur. C'est très important pour moi que le lecteur ne me baisse pas. Voilà.
Bon, tu as dit, tu écris à un moment donné, on a tous une mission dans la mission. Donc, justement, est-ce que ta mission, c'était en 2023, j'imagine que tu l'as écrit en 2023, c'était d'écrire la mission.
Alors, je vais essayer de raconter l'histoire très vite. Hein. C'est insignifiant la mission. Pendant des années, j'ai essayé d'écrire un livre qui s'appelait La Mission. J'étais hanté par une image qui n'a carrément rien à voir avec l'histoire qui est développée dans ce livre, ce nouveau livre qui s'appelle La Mission. En novembre 2022, je crois, j'ai jeté un livre qui s'appelait La Mission, avec cette histoire qui me hantait, et j'en avais fait une merde. Une nouvelle fois, je m'étais planté. Et ce que j'ai jamais fait, c'est que j'ai réécrit dès le lendemain un livre qui s'appelle La Mission, comme un palimpseste. Et cette histoire m'a forcé la main. C'est que, donc, je me dis, c'est un résistant, c'est un gamin, voilà, je dis 16 ans, 17 ans, j'ai changé souvent de l'âge du mec. Et puis, une histoire, somme toute, assez banale, hein, très, à la limite, on peut dire, naturaliste. Hein, c'est un mec qui a une valise et tout, qui arrive, des histoires assez bêtes, quoi, assez simples. Et peu à peu, contre ma volonté, une autre histoire, on pourrait dire surnaturelle, une histoire très, très importante au plan métaphysique, à la limite de la croyance ou du possible, c'est forcer la main. Et tous les jours, je me disais, mais tu vas, c'est pas possible, le lecteur ne te suivra pas. Et l'histoire m'a forcé la main. J'ai écrit ce livre en résistance et en même temps du mieux que je pouvais, de tout mon cœur, car c'était ce que je devais faire. Donc c'était vraiment une mission.
Mais à quel niveau et à quel moment tu penses que le lecteur te suivrait pas ou ne te suivrait pas?
Je vais être. Je me suis fait quand même bien ramasser la gueule au masque à la plume par mes amis des Inrecoutibles, auxquels j'envoie plus jamais de livres depuis 10 ans. Donc traité vraiment carrément de con et de trou du cul. Justement, parce que c'est pas cachère, c'est pas de gauche, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas dans l'air du temps, c'est simplement une histoire d'amour. Ah, point. Et une histoire d'amour qui m'est apparue et que j'ai été obligé de narrer. Or, cette histoire d'amour, elle démarre, on pourrait dire, mal. L'amour de notre héros, qui s'appelle Jacques, meurt dans ses bras, tout de suite, à peine rencontré. C'est des innocents, c'est des petits êtres de 17 ans. Et Jacques, mon héros, est investi d'une mission qu'on lui a donnée, que son amour lui a donnée. Et donc, c'est le livre bascule. Le héros de la mission, Jacques, doit, comme dans la vie, on doit faire quelque chose, tous, je pense, ou on n'a pas de parole, ou on est un traître, ou un sale mec, il doit mener à bien cette mission, qui n'est pas logique, qui n'est pas, on pourrait dire, rationnelle. Hein. Et, voilà. Donc ça, il y a des gens qui peuvent ne pas l'accepter. Voilà, point barre. Voilà. Et surtout, l'autre truc, d'expliquer tout, vous voyez, le train arrive 17h15, il faut aller sur le K8 et tout. Voilà, il y a plein de gens qui voient la littérature comme ça. Moi, je ne la vois pas comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de cinéma, j'étais scénariste, j'ai monté des films et tout. Et le truc qui me faisait je me suis engueulé avec des producteurs, c'est quand on prend vraiment le spectateur pour un con, Henri va à Washington, mettons, et sur le plan, on met un panneau Washington 175 km. Vous voyez, il y a plein d'écrivains qui écrivent comme ça. Moi, j'écris pas comme ça. Voilà. Ouais. Ça me ferait vraiment mal au cœur d'écrire comme ça.
Bon, alors, le début du roman, avant qu'on bascule encore sur autre chose, très rapidement avec ce personnage qui se retrouve embringué dans le maquis, mais en fait, en même temps, c'est des maquisards, mais en même temps, on a l'impression que c'est des résistants de la dernière heure, que c'est des fumiers finis. Et il y a une scène que j'aimerais que le petit Nicolas va nous lire. Avant qu'il nous lise cette scène, donc la prépare, le héros débarque à côté d'une maison. Et puis là, il découvre quelque chose, des images terribles. Enfin, tu disais à l'instant que tu avais travaillé pour le cinéma, et là, pour le coup, c'est du cinéma. On ouvre une page, mais on regarde une scène de cinéma. Mais avant qu'il nous lise ce passage, le petit Nicolas, on va écouter les Strokes. T'aimes bien les Strokes?
Ah ouais, j'adore. Ouais.
I'll try anything once, c'est-à-dire j'essaierai toujours quelque chose au moins une fois dans ma vie. En
ouais,
gros, c'est
bien, c'est super.
Et je me suis dit que ça correspondait au bouquin, d'autant que dans les paroles, c'est 10 décisions façonnent votre vie. Le début de la chanson, c'est ça. 10 décisions façonnent votre vie. Vous en connaissez 5 environ.
Ah, j'adore.
C'est pas mal comme
début. J'adore. Ouais. Ça, je trouve qu'il y a vachement de ressemblance, effectivement, avec mon bouquin.
Ouais. On écoute.
10 decisions shape your life. You'll be aware of 5 about. 7 ways to go to school. Either you noticed or left out. 7 ways to get ahead. Said, I can see me in your eyes. You said, I can see you in my past. just friendship, that's romance too. You like music, we can dance too. Sit me down, shut me up, I'll come down and I'll get along with you. There is a time when we all fail. Some people take it pretty well, some take it all out on themselves, some they just take it out on friends.
J'étais lavé, j'avais nagé à ma manière dans un trou d'eau, j'avais fait la sieste, pris mon temps, fainéanté, c'était la première fois de ma vie. J'avais presque oublié que j'avais faim. J'avais cherché le chapeau de Léon, et je ne l'avais pas trouvé. Un chapeau de paille, c'était utile l'été. Il approchait. Je longeais une béalière, j'ai ralenti. La béalière amenait l'eau à un moulin. Je risquais de rencontrer des gens, d'être vu à mon insu, ce qui était plus dangereux. Des cris. Quelqu'un hurlait, suppliait. C'est une femme. Des gosses se joignaient à elle. J'ai avancé en prenant mes précautions. J'avais de l'expérience. J'ai fini par m'arrêter. Pas besoin d'aller plus loin pour voir sans être vu le moulin en surplomb de la rivière. Du côté qui tournait le dos à la rivière, un homme était maintenu par deux autres. Il avait été tabassé. Sa femme et ses enfants, deux filles et un gamin, pleuraient et criaient. Trois types rigolaient en fumant. Ils devaient commenter la scène. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient. Deux autres installaient une corde. Un gars avec un masque de carnaval, imitant la tête d'une vache, est sorti du moulin. Il a brandi une chaise en gueulant « Pour que ce collabo aille en enfer !» Ses compères l'ont applaudi. Un de ces salauds a jeté par terre la femme qui voulait intervenir sauver son époux. Devant moi, à quelques mètres, et de dos, un bonhomme se branlait. Ils ont passé la corde au cou du condamné, qui a imploré la pitié. Celui qui avait le visage caché par le masque de carnaval en a équipé le condamné. Les autres ont rigolé. Le petit garçon a hurlé « Papa !» Les tueurs sont montés, ont monté le condamné sur la chaise. Ils ont entonné la Marseillaise. Celui qui avait porté le masque a donné un coup de pied dans la chaise. Elle a ripé, le condamné a gigoté et essayé de se débattre avant de mourir. Le petit garçon a fui en courant vers la rivière. Celui qui se branlait en avait fini. Il a essuyé ses mains sur sa veste et m'a aperçu. Il a grogné quelque chose et s'en est allé en se retournant vers moi, le visage déformé par la haine. Les tueurs sont partis d'un bon pas, en parlant fort. Certains riaient. La femme a couru vers son époux et a enlacé ses jambes en gémissant. Une des petites filles se tordait les mains, l'autre sanglotait. La femme criait, elle disait qu'elle voulait mourir, elle hurlait le prénom de son mari, sa douleur, son désespoir. Moi, je me disais que le mec était peut-être une ordure. Mais lui faire ça devant sa femme et ses enfants, il pendait, indigne, avec son masque de carnaval. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas accepter ça. J'ai marché au grand jour. Une des petites filles m'a vu et a reculé. L'épouse se lamentait toujours, enlacée au ventre de son époux. J'ai remis la chaise sur pied, je suis monté dessus et j'ai ôté le masque de carnaval qui cachait le visage de l'homme. Il m'a regardé et j'ai eu honte. Je suis parti. Je me sentais dégueulasse, avili. J'ai rejoint la rivière sans parvenir à me ressaisir. Je me suis aperçu que j'avais le masque dans les mains. Je l'ai jeté et écrasé avec mon talon. J'aurais voulu le faire disparaître. Le gamin m'observait, assis, ratatiné au bord de la rivière. Il devait avoir dans les 7-8 ans. Il ne pleurait plus. Il était blafard. Il a tourné la tête pour éviter mes yeux. Il avait des guiboles déjà tannées par le soleil, griffées par les ronces. Un gros bleu sur la cuisse droite, sur le haut de son bras droit, la pommette marquée. Je me suis assis à côté de lui. Je me souvenais un peu quand j'avais son âge. Je l'épiais. Tout venait de changer pour lui. On avait pendu son père avec une face de vache. Le père était mort. Lui, le petit, était maintenant le seul homme de la famille. Fallait que je l'aide. Je lui ai offert mon paquet de players sans le regarder. C'était important de fumer pour un gars. J'ai senti qu'il se servait. Je l'ai imité. J'ai craqué une allumette et la lui ai proposée sans le regarder. Il a pris son temps, je me suis cramé les doigts. J'ai dépensé une deuxième allumette pour ma cigarette. Il a toussé. J'ai toussé. Des Anglaises, ai-je dit. C'est la guerre. On fume ce qu'on trouve. Plus un mot pour éviter celui de trop. La rivière, nos clopes. J'ai traité mon mégot selon mon habitude. D'un coup d'œil emblié, j'ai constaté qu'il m'imitait. Ça m'a fait plaisir. J'ai pensé au vieux de ma jeunesse. J'ai passé mon bras gauche sur son épaule. On est resté comme ça quelques minutes. Des cris. On l'appelait. Oh, jamais tranquille, ai-je marmonné. Il a haussé les épaules. Il te cognait. Il a hoché la tête. Eh ben, c'est fini maintenant. On s'est dévisagé. Il a encore hoché la tête, les yeux pleins de larmes. Elle l'appelait « Jacques, Jacques, où es-tu ? Réponds !» De plus en plus inquiète et folle, je me suis levé. Il s'est levé. Il est parti les retrouver. Il s'appelait Jacques. C'était bizarre. Je ne le reverrai plus. J'ai redescendu la rivière. Un peu plus loin, j'ai entendu la détonation. Un fusil de chasse. Il m'avait tiré de trop loin. J'ai couru entre les arbres. Je me doutais qu'il ne gâcherait pas une deuxième cartouche. Ce genre de salaud était forcément radin. Les Benz perdaient la guerre, rentraient chez eux ou mouraient. Les plus dangereux désormais n'étaient plus les Benz, c'étaient les Français.
Voilà, c'était un extrait de La Mission, le dernier roman de Richard Morgiev. À partir de là, le héros va avoir que des problèmes, globalement.
Oui, avec la résistance.
Mais ce, avec la résistance, qu'il vient d'être avec des résistants, les véritables résistants vont avoir de gros problèmes. Il va être accusé
de meurtre,
et puis là, ça va s'emballer. La Mission, ça aurait pu aussi s'appeler La Transmission, parce que pendant tout le roman, c'est de la transmission.
Très juste. Et merci d'avoir choisi cette scène, parce que, en fait, c'est quelque chose que je voulais écrire un peu depuis longtemps sur la saloperie. Parce que c'est vrai qu'après la guerre en France, qui ne s'est pas conduite de manière héroïque, il faut arrêter les conneries, hein, et sans jugement. Mais après la guerre, il y a eu de vraiment de grosses saloperies dont on commence à parler. Parce qu'il y a vraiment la loi du silence, hein, on ne touchait pas à la guerre. Et là, récemment, par exemple, on a découvert 40 ou 50 corps de soldats allemands liquidés après Oradour-sur-Glane. C'est pas parce que la division Das Reich a commis une monstruosité qu'il fallait se comporter de la même façon. Et je pense que ça s'est répété des dizaines et des centaines de fois.
Bon, il y a un petit passage d'ailleurs sur les salauds, les traîtres, etc. Et où tu cites. Tu parles de Mitterrand.
Il a mis des fleurs sur la tombe de Pétain, qui était quand même une ordure, et il était décoré de la Francisque, pas moi. faut pas chialer non plus. Quoi.
Mais personne n'a dit que ça avait. Et justement, c'est le passage. Oui, parce que arrive un petit peu après ton personnage principal, Jack, réussit à s'en sortir finalement. Enfin bon, on va voir que ça va être assez compliqué. Il est dans cette mission. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a plein de missions qui lui tombent dessus. il va falloir qu'il choisisse à un moment donné sa mission. Et il se retrouve avec un personnage qui s'appelle le cardinal.
Ah, j'adore.
Et là, le personnage du cardinal, effectivement, qui est un mec un peu trouble, un peu. Qui a un petit peu fait du trafic avec les maquisards, avec les résistants, avec les Allemands. Avec tout le monde, et il se retrouve là, et bon, voilà, typiquement un personnage où on pourrait identifier ton paternel dans le cardinal.
Oui, c'est carrément. Carrément. Ouais.
Alors, il y a d'ailleurs un truc assez rigolo, je voulais te poser la question, concernant Jean Fautrier, le peintre Jean Fautrier, parce que tout tourne aussi autour de ce tableau qui est magnifique, parce que, auditeurs de Radio Libertaire, si vous avez un internet devant vous, vous tapez Jean Fautrier, vous tapez L'Homme ouvert, vous verrez une reproduction de L'Homme ouvert.
Et vous verrez mon livre aussi.
Et on verra aussi dans le livre. Mais L'Homme ouvert, c'est d'où est arrivée cette image de ce tableau de Jean Fautrier.
J'ai très peu de culture, pour dire pas de culture. Il y a de ça 20 ans, je ne connaissais pas du tout Jean Fautrier. Un jour, je suis tombé sur un tableau de lui. On peut dire, dans la vie, c'est l'œuvre d'art te choisit, c'est pas toi qui choisis. C'est pour ça que la critique, c'est toujours un peu. Les critiques sont souvent prétentieuses, à tort. C'est l'art qui te choisit. Et donc un jour, je suis tombé sur un tableau de Fautrier qui est en fait très connu, mais moi que je ne connaissais pas. C'est juste un petit tableau, c'est une assiette de poisson. Des poissons sur une assiette. Et ça m'a complètement omnibulé. J'étais fasciné par ce tableau. Donc je me suis un peu intéressé à Fautrier. J'étais voir des expos de lui, etc., etc. Et quand j'ai écrit ce livre, au moment que j'ai écrit La Mission, je ne sais pas, c'est le hasard de la vie. Je suis tombé sur le tableau, donc, qui joue une très grande importance dans le livre.
Donc, L'Homme ouvert.
L'Homme ouvert. Et ça m'a complètement fasciné et a donné, on pourrait dire, une image très importante à ce livre. Et j'encourage les gens qui ne connaissent pas Jean Fautrier à regarder ce qu'il a fait. Et parce qu'en fait, son œuvre, il a été figuratif et puis après abstrait. Et il a fait, des sculptures très jolies aussi. Super jolies sculptures.
Et la vie d'ailleurs de Fautrier, elle est assez rigolote. Hein,
oui.
Parce que le mec, il est peint, donc il est né en quoi? En 1890, ouais, un truc comme ça. Puis il est mort à la moitié du 20e siècle. Mais au début, ça marche bien, la peinture. Puis au bout d'un moment, ça marche plus terrible. Ouais. Et donc, il se retrouve à faire plein de petits boulots.
Ouais,
c'est
ça.
Je trouve ça assez marrant, l'histoire de Fautrier.
Et c'est pour moi un très grand peintre. Hein. Je trouve que c'est... Ça vaut le coup de regarder qui c'est.
Tu n'as pas une version de L'Homme ouvert chez toi?
Non. J'aimerais bien, mais non.
Le roman fonctionne comme, en même temps, comme un roman populaire.
Oui.
Il se trouve, il y a tout un tas de rebondissements, des trucs invraisemblables. Il y a des références aux Templiers, parfois. Il y a des missions, voilà. Il y a des bagues magiques. Enfin, on est en même temps dans le roman de KPDP, un peu le western, un petit peu. Il y a tout un tas de genres comme ça qui se concentrent dans la mission.
D'où le fait que, je me suis exprimé tout à l'heure, la peur que j'avais de ne pas être suivi par le lecteur.
Ah oui.
Ben oui, parce qu'il faut accepter. Moi, des fois, j'en ai marre des trucs tout faits. Moi, je n'ai pas mené une vie toute simple, pas rangée. Bon, je suis écrivain, mais j'étais prolo. Et je pense que les histoires aussi sont aussi amoureuses de l'insolite. Or, en France, j'ai l'impression qu'on peut écrire qu'un type d'histoire avec maintenant la référence à la sociologie, hein, genre. La sociologie qui devrait gouverner les œuvres d'art, non. Enfin, pour moi, c'est la magie, le besoin de foi. je ne suis pas croyant, mais mon héros a besoin de foi.
Oui.
Il faut l'accepter.
Oui, mais le côté roman picaresque, ça, parce que c'est un roman picaresque, dans le fond, ce côté-là, les gens aiment bien aussi les romans picaresques. Aujourd'hui, tu crois que ça y est, c'est
mort. Que les gens aiment souvent... Je reviens à Michel Lebrun. tu fais une histoire avec un mec qui a une tête, deux mains, deux pieds. Il gagne au loto et il épouse une femme très belle qui devient Miss Univers. Bon, ton prochain bouquin, bon. Et puis, tu peux pas, par exemple, le cardinal, donc un personnage extrêmement important dans ce livre, qui est une figure paternelle, hiératique, etc., est un personnage de légende. Hein. Il a ce rôle dans la fin de la guerre, puisque il se rencontre en 44, Jacques et lui, mais en plus d'être un trafiquant, un copain de John Vitz et tout, c'est un homme de légende. Et là, pour moi, la mission, c'est aussi faire rentrer la légende dans le naturaliste. C'est-à-dire que, par exemple, moi, souvent, je suis là, j'écris, et je vois passer des trucs. Au départ, ça m'inquiétait beaucoup. Je me disais, t'es taré, t'es fou. Je suis taré, je suis fou, et je vois passer des trucs. Mmh. Voilà. Faut l'accepter. Je vais pas dire, je n'ai pas vu passer le truc. Voilà.
Mais quand tu dis, mais maintenant, aujourd'hui, on veut des... c'est vrai qu'il faut de la psychologie. Mais il y a plein de psychologie dans ton roman.
Oui, mais c'est pas écrit... c'est à chacun de trouver la clé.
Non, par exemple, ton héros, quand il se retrouve sur un bateau, parce qu'à un moment donné, il va se retrouver sur un paquebot qui va partir vers les États-Unis d'Amérique. Ouais. Et à ce moment-là, ton personnage, il croise tout un tas de zozos, dont une nana. Bon, ça, c'est très marrant. Il se retrouve avec une nurse qui ressemble à Bécassine, mais en plus sinistre. C'est Bécassine, mais en plus sérieuse. Quoi. Est-ce que Bécassine est pas sérieuse? Non, c'est vrai qu'elle est pas sérieuse. Et là, il y a un truc sur la lecture. Il y a un passage sur la lecture, parce que ton personnage principal se souvient, il est sur un bateau, il se souvient d'un bouquin de jeunesse, c'est Un mousse de Surcouf, qui est un bouquin qui est écrit, c'est un pseudo, Pierre Noël est un pseudo, c'est deux auteurs qui écrivaient, qui finalement se sont foutus sur la gueule et sont fait un procès mutuellement. Il y en avait un qui écrivait des bouquins qui marchaient pas du tout, et l'autre, il écrivait des bouquins qui se vendaient bien, mais c'était de la merde. Et je crois que c'est ça, ils sont rassemblés, ils ont fait des...
Ils ont cartonné
avec leur truc.
Ils sont reséparés, je crois.
Et ils sont reséparés, et ils sont fait un procès, ils sont foutus un procès.
Ah, mais c'est un très bon exemple que tu donnes, parce que c'est une chose que je vois aussi en France qui me révolte. Qu'est-ce que vous avez lu? Alors, les mecs, ils arrivent, Thomas Bernard, je connais un con comme ça qui a lu 5 livres, et il avait, avant, quand je le connaissais, il avait lu 0. Et un jour, je le vois, en fait, c'est un mec connu, mais bon, ça n'empêche pas d'être con, et il me dit, qu'est-ce que tu penses de Thomas Bernard? Et avec ma femme, on était pliés de fou rire. J'ai évidemment pas répondu. Je pense rien de Thomas Bernard. Il pense à ma place. Mais moi, je pense... Mais, par exemple, moi, j'ai été hyper influencé dans ma vie, pas d'écrivain, dans ma vie, par des livres dont j'ai absolument pas honte d'en parler. Donc, pour moi, Mario Hara, Mon ami Fika, c'est le chef-d'œuvre de ma vie. C'est comme ça. Mmh. Et Le mousse de Surcouf a joué un rôle hyper important dans ma vie.
Mais raconte comment tu as lu ce texte. C'était dans quelle collection?
C'était la Bibliothèque Verte, l'ancienne, cartonnée.
Cartonnée avec jaquette.
Et je l'ai lu, et parce que là, je l'ai relu, parce que ma femme me l'a acheté. Après la mission, je lui ai dit ça, et elle m'a acheté le livre, et je l'ai relu. Et je ne comprends pas pourquoi j'étais fasciné. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, c'est un livre hyper incrédible. Mais totalement incrédible, c'est pas grave, mais hyper mal gaulé, c'est-à-dire que bon, et puis des trucs, mais d'une invraisemblance, mais énorme, quoi. Ça m'a fasciné, j'ai lu. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas il faut lire et tout, hein, je me démerdais, j'allais dans une bibliothèque où je louais les livres à 5 centimes. Ce livre, je l'avais de mon frère, ou je ne sais pas trop quoi, je l'ai lu, 30 ou 40 fois, comme Mon ami Flicker. Fou.
Bon, en tout cas, ça sert bien à ton héros. Hein.
Oui.
Parce que d'avoir lu ce livre, il sait un peu comment se comporter sur le rafio.
Voilà.
Ce qui est pas mal. Et en même temps, il y a un passage sur la lecture. Est-ce que, et comment tu te construis avec la lecture, ouais, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, quelle que soit la lecture. Puisque O'Hara, mon ami Flicka, ou Amous chez Surcouf.
Ou Thomas Bernard. Mmh. Mais qu'on commence à dire, il y a des bons livres. Non, c'est pas vrai. Il y a les livres qu'on aime, que l'on aime, à un moment donné, parce que c'est pas sûr qu'on aime toujours le même livre. La preuve, maintenant, le Mousse de Surcouf, je l'aime pas. Mais je vais pas dire c'est de la merde. Non. Mmh. Parce que ça jouait dans ma vie un rôle plus important, par exemple, que Thomas Bernard, que j'ai lu. Bah, Thomas Bernard, ou, comment il s'appelle, Pierre, les deux mecs, c'était quoi le
Pierre Mail.
Pierre Mail. Eh ben, le Pierre Mail compte plus que pour moi, c'est tout. Mmh. C'est pas logique, mais c'est comme ça.
Bon, il y a quelque chose de très important dans qui te constitue, Richard Manchiep, d'une certaine façon. C'est le parfum.
Ah ouais, j'adore. Ah, j'adore.
Alors, il faut dire aux auditeurs de Bulle Noire, Radio Libertaire, Richard sent toujours très très bon. C'est vrai, c'est vrai. Tu sens...
J'adore.
Tu portes un parfum...
Je reprends... Maintenant, ça fait pas longtemps, ça fait un an que je porte Vétiver.
Mmh. Et alors, surtout, mais avant, tu portais un autre parfum. Et d'ailleurs, un jour, je t'avais posé la question et tu m'avais dit, oui, mais souvent, on me fait le compliment, on dit, ah, toi, tu sens toujours bon. Et c'est très, très agréable. Bon.
Ouais.
Et les odeurs ont une importance incroyable dans tes romans. Et là, dans ce roman-ci, tout à l'heure, tu parlais du poisson de Fautrier, du plat de poisson du Fautrier. Il y a des odeurs de poisson, il y a des odeurs de tabac, il y a des odeurs d'ail, il y a des odeurs de poisson un peu pourri, faisandé, il y a des odeurs de mer, d'iode, etc. Il y a des odeurs dans tous les sens.
Ah, c'est bien, je n'avais pas conscience, mais c'est bien, je suis content, ça me racinère.
Il y en a sans cesse, quoi. Quand t'écris, il y a des odeurs qui viennent.
Moi, je vais donner un exemple tragique. Bon, je suis vieux, hein. Depuis des dizaines d'années, depuis 60 ans ou plus, je ne sais pas, par moment, dans la matinée ou dans la soirée, je suis dans la cuisine, je prépare un mets, et soudain, j'ai envie de dégueuler de manière hyper violente, terrible. Parce qu'on m'annonçait la mort de ma mère quand je mangeais. Et donc, si c'est génial ce que tu dis ça sur le fait des odeurs, parce que là, j'en avais pas conscience. Et donc, on en revient à ce que tu disais. Il y a une matrice, hein, c'est en l'occurrence pour maman, le mot est bien choisi. Et ben, j'y vais. Hein.
Ah,
à mon insu.
À ton insu, oui.
Bah, carrément, oui.
Ah, c'est vrai. Alors, le coup des odeurs va me donner une occasion de parler de notre prochaine pause musicale. En l'occurrence, c'est le groupe Odeur de Ramon Pipin, le Ramon Pipin's Odeur. Et deux choses. D'abord, on va écouter un titre et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre-là. Mais d'abord, je voulais vous signaler que Ramon Pipin sera avec son groupe Les Excellents. Alors, Les Excellents, c'est Ramon Pipin qui a monté un groupe avec des ukulélistes, des gars qui font du ukulélé. Et c'est eux qui le disent, hein. Ils exécutent les œuvres de différents artistes connus. Alors là, Les Excellents exécutent les Beatles et d'autres trucs. Le 4 octobre, au Café de la Danse. Il faut y être à 19h30. Le Café de la Danse est au 5 passage Louis-Philippe. C'est dans le 11e que tu connais bien, toi,
oui.
Richard. Ah, 11e, oui. Ils vont exécuter l'album Revolver. Alors, le principe des Excellents, c'est des titres pourris. Et donc, si ça, un truc qui s'appelle... j'ai pas d'exemple... des exemples me viendront, mais ils font un jeu de mots sur le titre des les chansons, et puis ils changent les paroles en faisant des paroles où il y a...
Mais ils gardent la musique ou...
Ils gardent la musique, c'est assez bien orchestré et tout, mais ils changent les paroles pour chanter des conneries. Mais on ne va pas écouter un truc des Excellents, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle cette semaine, c'est que Clara Bell, la chanteuse et compagne d'ailleurs de Ramon Pipin, et la chanteuse d'Odeur, nous a quittés. Ah. Et c'est pour ça qu'on va écouter plutôt un titre qui s'appelle 12 crèmes, qui est un titre, vous allez voir un petit peu les références. 12 crèmes, c'est Clara Bell qui chante avec Sharon Glory. Et
mais c'est leur vrai, c'est leur vrai. Ah non, c'est les pseudos.
Ramon Pipin, Clara Bell, son vrai prénom c'est Marion.
D'accord.
Philippe Vauvillier, c'est Sharon Glory. Ils ont tous pris dans Au Bonheur des Dames. Au départ, était Au Bonheur des Dames, et ensuite c'est devenu Odeur. Donc il y a certains membres d'Odeur, Au Bonheur des Dames, je vais y arriver, qui sont partis chez Odeur. Alors puisqu'on est dans les odeurs, on écoute Odeur, on écoute Douce Crème. Bulma, Radio Libertaire, on parle de La Mission, le dernier roman de Richard Morgiev, qu'il faut absolument lire. C'est un. Ben oui. Et on vient d'écouter les Ramones Pipa Odeur, Douce Crème, avec cette émission lui quasiment dédiée à Marion, alias Clarabelle, qui vient de nous quitter. Les excellents exécuteront donc les Beatles et d'autres trucs le 4 octobre au Café de la Danse. On va lire un petit extrait justement de La Mission. C'est un passage, justement, ça concerne La Mission de ton personnage principal. Il se trouve qu'après avoir vu le cardinal lui a donné
une mission.
Il doit apporter un objet, je ne vais pas dire lequel. Ouais. Peut-être que d'ailleurs dans l'extrait ça va être dit, à un autre personnage extrêmement trouble, extrêmement dangereux. Un mec, c'est là où je dis que c'est entre le picaresque et le populaire. Et donc on tremble un peu pour ton personnage principal. On se dit, bon, est-ce que son histoire va se terminer là? Il amène cet objet et c'est ce moment où, justement, alors qu'il amène l'objet à ce personnage, le masque d'ailleurs.
Oui, le masque comme dans un James Bond.
Voilà, on est dans le James Bond. D'ailleurs, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des mots secrets, il y a des rituels, il faut rentrer. C'est du. Encore une fois, c'est de tous les genres que j'adore, hein, personnellement, sont réunis dans ce roman où on se régale à chaque page. Et sans, évidemment.
C'est un roman,
sans savoir.
Tu as dit le mot, c'est un roman. C'est romanesque.
C'est romanesque.
Faut arrêter de dire qu'il faut mettre des pourcentages et des statistiques dans un roman. Expliquer sociologiquement, comme disent certains journalistes, les seuls bons livres, c'est des livres sociologiques. Mon cul, quoi. Faut arrêter, quoi.
Bon, alors ton personnage qui est tout jeune, qui est hanté d'ailleurs toujours par l'amour qui est mort dans ses bras, avance quand même et essaie d'avancer dans pour cet amour, et il essaie d'avancer et il se retrouve avec le masque.
Il a ôté le templier du doigt qu'il a remis dans l'étui à cigare. Tu étais là? Oui. Il a parlé? Oui. Rapporte-moi exactement ses propos. Tu lui diras que j'ai fait ce qu'il y avait à faire, nos coffres sont pleins, tout est en ordre. Le templier peut changer de doigt, l'avenir est assuré, et ipse est angelus noster. Il a opiné de la tête. Tu connais le latin? Non. Et puis, il m'a dit au revoir petit. Vous étiez où? Dans une voiture près de la mer. Il aurait fallu dessiner la vie vignette par vignette et la contempler pour comprendre. Oui, je t'écoute. Il m'a quitté et je ne l'ai plus vu. Il ne pleurait plus. Derrière lui, sur la table en laque noire et bronze doré, une pierre noire au reflet insolite et surnaturel était exposée sous un globe. Et son homme ouvert. Il me l'a confié en me disant de faire au mieux. Et alors, au matin, j'ai trouvé, je crois, celui qui le regarderait. Où? Au bord de la mer, dans une cabane. Il avait un chien et un tatouage. Tu me parles d'une étrange coïncidence. Le tatouage, une tête de mort avec écrit « Pas tué » à Verdun. Il m'a observé songeur. C'était quoi votre marché avec celui qui t'a envoyé à moi? Pour moi, venir ici, pour lui, me fournir des papiers, me donner assez d'argent. Pourquoi faire? Aller en Amérique? Aux États-Unis? Où? L'Idaho. Dans quel but? J'ai hésité. J'étais captivé par la pierre noire, par lui, le masque, par tout ce mystère. C'est ma mission. Il a tressailli. Ta mission? Oui. Il a hoché la tête et m'a paru enfin vivant. Tu pourrais déroger? Il s'est tu. Je ne comprends pas, monsieur. Si je te confiais, moi, une mission extraordinaire qui changerait ta vie. Tu pourrais abandonner celle que tu poursuis? Non, monsieur. J'étais conscient qu'il pouvait m'en tenir grief, prendre mon refus pour de la bravade. C'est que tu estimes qu'elle est plus importante que tout autre commandement? Oui, monsieur, mais pour moi, juste pour moi. J'ai eu envie de dire « et pour lui ». Je me suis retenu. Ça aurait été indécent, sacrilège. notre amour était plus précieux que des mots.
Un passage où justement il y a un petit peu de mystère, où il se retrouve, il y a un peu de latin, parce que alors la phrase en latin c'est et il est notre ange.
Voilà, c'est très important.
Oui. C'est super important dans le ouais. truc. Et il est notre ange. Ouais. Parce que d'une certaine façon, bah, enfin non, c'est pas d'une certaine façon, ton personnage est un ange.
C'est un ange, voilà. C'est sûr.
Mais quand tu as commencé à écrire, tu cette figure-là angélique entre guillemets du personnage,
non. Non, c'est en cela que j'avais la pétoche en écrivant ce livre, parce que vraiment tout ce côté, c'est vrai que c'est alors c'est difficile pour le lecteur de faire passer tout le livre. Le Templier, c'est une bague en fait. J'avais vraiment la conscience que la foi, le mysticisme, du côté hiératique, tout ça, c'était beaucoup quoi. Mais à moi d'accepter la mission d'écrire ça, voilà, et je l'ai fait. Bon, ça, j'ai terminé le livre, j'étais en fait bouleversé, hein. Je pleurais comme une madeleine, ça m'a vraiment achevé, quoi. Mais j'ai fait mon truc. Mais c'est vrai que quand j'écoute, c'est bizarre. En fait, la pierre qui contemple dans le truc, c'est cette fameuse pierre qui a un nom arabe mythique que les croisés voulaient aller piquer à Jérusalem. Enfin, c'est assez compliqué.
Et d'ailleurs, tu t'appelles quand même Richard. Quand même, Richard, ça fait partie des grands rois d'Angleterre, dont certains ont été des Templiers.
Mais carrément, carrément. Enfin, pas des Templiers, des croisés.
Des croisés, ouais. Voilà. En vrai, des croisés.
J'ai choisi Templiers.
Ah, je me demande justement si Richard, le fameux Richard dans Robin des Bois, c'était
Richard
pas...
Richard Cœur de Lion.
Richard voilà. Cœur de
il
Lion.
Il n'était pas Templier.
Il était croisé.
C'est
Marc, il a été souvent emprisonné. Il a été plus souvent emprisonné qu'en Angleterre.
Oh oui.
Elle est bonne.
Non, mais. Enfin, bon, voilà. Quoi, je ne peux pas justifier sociologiquement ce qui se passe dans mon livre. Mais justement, je pense que les romans ont pour mission hein, de nous captiver, de nous amener ailleurs. Quand je disais mon ami Flicka, ma mère est en train de mourir, mon père allait se faire buter ou allait se suicider, on était dans la misère, ça m'a permis de vivre. Mm. Voilà, quand même les livres, ils sont là aussi pour nous sortir de notre réalité, pas que pour, entre guillemets, nous cultiver, ou, vous voyez.
Bon, il y a à nouveau cette histoire dans la mission du départ outre-Atlantique et d'aller se retrouver aux États-Unis.
Oui.
Alors, on a vu aussi dans Cherokee, dans les précédents romans, qu'il y avait ce truc, ce rapport aux États-Unis. Qui
le
est,
nouveau monde.
Le nouveau monde. Alors justement,
Oui. C'est vers ce nouveau monde. Le salut, ça, c'est pas écrit dans le livre, mais là, je réponds à ton truc. Le salut, c'est dans le nouveau monde, qui pourrait être considéré comme une terre promise. Enfin, voilà. Et la terre promise pour... en fait, c'est plus tellement la Judée, hein, je trouve, vu les événements qu'on vit. Hein, la terre promise, elle... voilà.
Alors justement, les États-Unis et toi, c'est ce rapport aujourd'hui aux États-Unis, qui n'est plus le même que quand tu étais adolescent ou jeune adolescent, en découvrant, j'imagine, la série noire ou les polars, oui. Et en disant, voilà, c'est ça les États-Unis, il y a des grosses berlines, il y a des grands immeubles, et puis ils ont des dollars et des whisky.
Non, mais ce qui me fascine dans les États-Unis, ce qui continue de me fasciner, parce qu'en fait... je crois encore aujourd'hui, c'est une terre où on peut rêver. J'ai un copain américain qui est mort, pas à son âme, qui me disait quelque chose. Il me disait, à 40 km de New York, on peut trouver des terres, des endroits où personne n'a jamais marché. Tandis qu'en France, me disait cet ami, on a marché partout.
Ah, pourtant, je croyais qu'il y a 2% du territoire européen qui est totalement vierge, qui n'a jamais été...
Pas en France.
Pas en France.
Ah, ça paraît difficile. Et c'est justement... Il y a un truc sociologique, pour faire plaisir à nos amis qui aiment la sociologie, qu'on voit par exemple en Ardèche, où se situe au départ la mission, c'est que maintenant, c'est une nature qui semble sauvage. Mais la nature... a poussé sur des ruines. Il y a de ça 50 ans, l'Ardèche n'a pas la gueule que les Hollandais voient aujourd'hui quand ils achètent leur baraque ou les Belges, etc. C'était cultivé, entièrement cultivé. Hein, il n'y avait pas d'arbres, en fait, à la limite. Hein. C'était des terrasses. Et quand on marche dans les bois en Ardèche, c'est tragique, quoi. On voit le toute la mort, quoi. C'est la garde 14, hein. Pardon, là j'ai dérapé, mais...
Tout à l'heure tu disais...
Donc l'Amérique, c'est l'endroit où je peux rêver encore. Où je peux rêver. Et si je rêve pas, c'est...
Bon, alors quand est-ce que tu pars aux États-Unis?
Ben j'y suis allé, mais en fait, je connaissais un mec qui me disait, genre, pour écrire, il faut voyager. Mais non, non. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle United, United Colors of Crime, qui se passait aux États-Unis, car j'avais rencontré un Américain que j'adore, qui s'appelle Ralph Schoolcraft, et il m'a invité, il était prof à Austin, il m'a invité au Texas. Donc je suis allé une fois en Amérique et tout, mais ça va, c'est bon, j'ai pas besoin de... Moi, j'ai besoin de rêver. Alors, en revanche, la chance que j'ai, c'est que Ralph, mon ami américain, corrige tous mes livres qui se passent aux États-Unis. Et sur des trucs, et il me reprend parce qu'il y a des trucs où... Par exemple, dans un de mes livres, « Cimetière d'étoiles », dont on a parlé tout à l'heure, moi, mon héros veut boire un café. Et Ralph m'explique que non, il me dit « Ce que tu fais, là, c'est pas possible en Amérique, ni à l'époque où tu l'écris, ni maintenant. » Des trucs tout petits. Et donc, j'ai cette chance, cette sécurité énorme d'avoir Ralph qui me dit « Ah ben non, non, t'as écrit ça, oui, mais c'est pas possible. »
Bon, alors, quand t'écris de la séquence, justement, sur le bateau qui...
Ralph est passé, là. Ouais. Non, c'est bon. Je passe beaucoup de temps à trouver de la doc.
Ouais.
Ralph peut m'en fournir, ça peut arriver.
Ouais.
Ou il contrôle ma doc, il me dit non, là, ça va pas, etc. etc.
Non, c'est... Genre, comment ça va se passer quand mon personnage, il arrive aux États-Unis, là, tu dis, bah non, il faut...
Alors, je fais ça et tout, et Ralph me dit... Là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, en fait, j'ai cette chance, par exemple, dans la mission, tout semble être extraordinaire, mais tout est vrai. Je ne peux pas écrire un livre qui est mal documenté. Là, je peux pas.
Mmh.
Donc, je fais hyper attention à ça. Voilà. Encore plus, évidemment, quand je suis pas chez moi, c'est-à-dire quand je suis aux États-Unis. Donc, je fais encore plus attention et j'ai... Béni soit les dieux, mon ami Ralph Schoolcraft. Qui...
Bon, c'est pas la première fois quand même que tu racontes une histoire qui se déroule juste avant la débâcle, éventuellement, l'après-guerre, etc. C'est quelque chose qui...
Il faut des situations extraordinaires pour que, je trouve, pour que les histoires se développent de manière extraordinaire. Par exemple, quand en période de guerre... on sait, on admet, on a même envie que tout se passe différemment. Pour moi, la lecture, c'est pas que ça, mais c'est m'amener ailleurs. Moi, en tant qu'écrivain, j'aime bien amener ailleurs. Par exemple, faire un mec sympa, cool, qui est de gauche, qui a signé la pétition là, pour ne pas contre les hommes, etc., etc. Bon, ça me casse tellement le truc au départ que je le ferai pas. Hein, je préfère un mec qui est bête, idiot, violent, à la limite meurtrier voilà. Et puis je vais en faire quelque chose. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'écrire l'histoire.
Mais même dans tes méchants, d'ailleurs, enfin, dans les salauds, tu les condamnes pas toujours.
Ah non,
hein.
Je suis contre. Par exemple, il y a des trucs que je trouve déontologiquement dégueulasses, qui sont assez... C'est un peu la mode, là, parce que là, je suis dans un jury où je vois des trucs assez graves, quand même. Juger, régler ses comptes avec des personnages. Par exemple, il faut lutter contre ceci, et donc tu fais un mec méchant qui tape sa femme, la viole et tout, etc. Et puis donc tu fais une leçon de morale et tout. Moi, je déteste ça. Mes méchants sont méchants, c'est pathologique. Mais c'est pas moi qui les juge. Moi, je ne les juge pas. Par exemple, j'ai fait dans un de mes livres, un tueur en série, je ne le juge pas. Il est monstrueux pathologiquement. Et moi, je suis pas là pour le juger. Je suis là pour le mettre en scène et voir ce qui va arriver. Voilà. Et ce qui me fait chier, c'est que dans un futur livre que j'ai écrit, parce que j'ai des livres d'avance, j'ai fait un personnage, c'est un merle, mais je l'avais appelé l'abbé Pierre. je me dis, est-ce que je change de père de mon nom? Ça me pose un énorme problème. Parce qu'au départ, j'avais appelé l'abbé Pierre, mais ça me s'est marré. Alors maintenant, ça change tout, puisque ça risque de prendre un truc que je veux pas. Parce qu'au départ, ça me faisait marrer. Parce qu'au départ, quand j'écris l'abbé Pierre, c'était l'abbé Pierre, bon, etc. Qui mettait pas la main au cul et qui violait pas les gens. Bon, alors là, ça change tout.
Tout à l'heure, tu disais que la mission, au préalable, tu avais écrit une première version que tu as
jeté.
Que tu as jeté.
J'en avais écrit d'autres avant.
Et cette version-là, il y a des trucs qui correspondent à la première.
Rien du tout.
Parce que en revanche, il y a un bouquin qui est sorti, je crois, l'an dernier.
La fête des mères.
La fête des mères.
C'était un
bouquin que tu avais déjà écrit auparavant.
Oui, qui s'appelait La fête des mères, que j'avais écrit sous un autre nom.
Ouais.
Voilà, c'est une histoire invraisemblable, mais dans la mission, la mission d'origine, celle que ça fait 10 ans que j'essaie d'écrire, j'ai été fasciné par une scène que je vais vous décrire, qui n'est pas dans ce livre. Hein. Dans ma tête, c'était des chrétiens français des années 50, bien tombés sur la tête, des darbistes, vous savez ce que c'est les darbistes, des protestants déviants, quoi, des baptistes, on dirait, qui déboulaient en Amérique parce que en fait, ils avaient eu un héritage, une connerie dans ce genre-là. Hein. Et ils arrivaient, ça me fascine encore, j'en rêve la nuit, hein. Ils arrivaient donc dans un endroit, la mission, c'était un bâtiment religieux, vous voyez, un temple, en vieux bois un peu peint en rouge et tout, et là, ils allaient en prendre plein la gueule. Et donc, il y avait ce bâtiment, la cloche qui sonnait. Hein, et je voulais réécrire cette histoire. Je veux encore l'écrire, mais c'est fini. Je ne le ferai pas, parce que je l'ai planté je ne sais pas combien de fois. Et puis maintenant, je ne peux plus, puisque j'ai écrit la mission, et ça n'a plus rien à voir.
Ah oui, Miguel, là, c'est un autre bouquin, tu l'appelleras autrement.
Non, je ne pourrais pas. Non, je ne vais pas y toucher. Non, parce que là, je sais que je suis mort. Non, je suis reparti à me planter. Non, je n'y arriverai jamais. C'est un fantasme. Mais voilà ce qui, moi, mon ennemi en littérature, c'est le fantasme. Donc, je suis bourré de fantasmes comme nous tous. Hein, voilà, peut-être, on ne va pas faire un concours. Mais si j'écris, il faut que ce soit un fantasme, on pourrait dire inconscient, qui me manœuvre, comme tu l'as dit. En fait, Richard écrit toujours la même histoire, son papa qui est mort, sa maman qui est mort, salut, et puis il se raconte
des histoires. Non, c'est pas la même histoire.
Non, mais on se comprend.
Des thèmes qui reviennent.
Mais si d'autres fantasmes prennent le dessus, parce que j'ai d'autres fantasmes qui voudraient me faire écrire, mettons, des histoires vraiment à la limite du réel. Voilà, c'est un fantasme que j'ai. J'ai biaisé dans la mission. J'ai pu le faire. Hein. Mais si je vais trop loin, mettons, le mec, mon héros, il tourne la tête et il voit, mettons, une grosse araignée qui pèse 8 kilos. Hein. Là, Richard, c'est foutu. C'est foutu. Parce qu'après, tout se m'a emmerdé. Mes mots sont débiles. Mes intentions sont fausses. Et donc, Aménoton, elle peut aller se rhabiller, parce que je crois que j'ai jeté beaucoup plus de livres qu'elle, mais je n'en fais pas publicité. J'ai 20 ans de plus qu'elle, donc j'en ai jeté je ne sais pas combien.
Bon, le tatouage, pas tué à Verdun.
Ah oui, c'est génial. Mais oui, parce que ça, c'est un clin d'œil à Cimetière d'Étoiles, donc un autre qui démarre, parce qu'il y a deux personnages. Fletcher et Will Drake, qui sont des flics pourris, qui tombent sur un cadavre. Et sur le biceps, il a « Not killed », et j'ai oublié le nom de la bataille en Corée, « Not killed at », j'ai oublié le nom. Pas tué à... Non. Et là, j'ai repris le truc, parce que j'adore cette idée que j'ai eue de pas tuer. Parce que, vous voyez, dans le livre, « Cimetière d'étoiles », un des flics, Will Drake, dit en regardant ça, vraiment, t'es un pauvre con, parce que t'as pas été tué à... Mais t'as bien mort ici. Il y a une sorte de bravade dans le tatouage.
Ouais.
Hein. Mais l'idée d'un mec qui porte pas tué à Verdun, ça m'excite. Ça m'excite.
C'est revenu uniquement par rapport à Poussière d'étoiles.
Oui, ça m'est revenu ça, et c'est un hommage à ce livre. Et puis, c'est un hommage... Je trouve que c'est une très bonne idée que j'avais eue, de bravade, de porter un truc, pas tué là, oui, mais tu vas bien mourir quand même. Donc tu ne seras pas tué à Verdun, mais tu vas bien crever à Issy-les-Moulineaux.
Est-ce que tu as un tatouage ?
Non, je ne peux pas. Ah non, je suis contre. Je, sans jugement moral, mais je suis contre pour moi. Oui. Je veux pas, non, pas de truc sur la peau, ça suffit. Hein.
Bon, comme c'est une belle histoire d'amour, il y a un titre que j'adore et qu'on va écouter tout de suite, et ça va parfaitement avec la mission, c'est « You are my sunshine ».
Ah,
c'est
une
chanson
j'adore.
Qui est sublime. Et là, c'est une interprétation de Jasmine Thompson. On écoute « You are my sunshine ».
The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and I cried. Sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. And nothing else could come between. But if you leave me to love another, you'll have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Attention.
Bulle noire sur Radio Libertaire, on est avec le plus grand auteur français, ou l'un des plus grands auteurs français vivant sur cette planète. Il vient de publier La Mission aux éditions Joël Losfeld Édition. C'est rigolo d'ailleurs d'avoir une maison d'édition qui s'appelle Joël Losfeld Édition. Pourquoi pas Édition Joël Losfeld?
Ça, je sais pas, faudrait lui demander.
Tu vas jamais poser la question?
Non.
Bon, d'accord.
Alors, tu dis pourquoi pas s'appeler Joël Losfeld et plutôt qu'Édition Joël Losfeld?
Bah, là, c'est Joël Losfeld Édition, pourquoi pas Édition Joël Losfeld.
Ouais, c'est ta vie. Ouais, c'est bizarre.
Ça fait, c'est un peu étrange.
Regarde, d'un côté, c'est à la française, et de l'autre côté, c'est à l'américaine.
Certes. Bon, alors, c'est vrai que dans
remarque ce... pertinente.
Ouais, remarque extrêmement pertinente. Écoute, je te félicite. Il y a aussi, est-ce que dans l'amour, dans la notion d'amour, il y a toujours l'ablation de quelque chose? Est-ce qu'on doit perdre quelque chose?
Dans mon histoire,
est-ce qu'on doit donner quelque chose?
Moi, je pense
oui. Là, les personnages se mutilent, s'automutilent d'une certaine façon. C'est un don de quelque chose. Avec la sensation d'offrir quelque chose. Il y a un côté quasi christique dans ce truc-là.
L'amour, c'est quand même. Ouais, en fait. On pourrait dire, c'est à la limite. Mais ça se rapproche du miracle, quoi. C'est bizarre, l'amour. Et tu perds forcément quelque chose, tu gagnes quelque... Enfin, voilà. C'est pas très clair ce que je dis, mais ça me choque pas. Si tu ressens ça de ce que j'ai écrit, ça ne me choque pas de le faire. parce que
je... Ah, mais je trouve pas ça choquant.
Voilà,
je
non, mais je
dis la dimension de se couper quelque chose physiquement. C'est douloureux, mais en même temps, ça t'amène à quelque chose qui amène vers l'amour. C'est en ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu christique mais, là-dedans.
Bah, c'est un des soucis que j'avais, moi, en écrivant ce bouquin, parce que je me disais... voilà. D'ailleurs, par exemple, mon ami Ralph était embêté, parce qu'il m'a dit, puisqu'il a bossé donc sur la mission, que lui, qui était élevé, pourtant c'est un Américain, sans aucune... éducation religieuse et sans aucun rapport à la foi, ce que j'entends tout à fait, était troublé par la mission à cause justement de la foi qu'il avait du mal à comprendre. Et ça, je le comprends très bien. C'est un argument, bien sûr. Je comprends très bien qu'on puisse se dire, d'accord, mais j'en ai rien à foutre, moi. Je comprends pas, je sais pas ce que c'est que la foi. J'ai aucune culture, aucun... goût.
Non mais je préfère rassurer les auditeurs de Radio Libertaire. Il n'y a rien sur Dieu, sur
non,
la
non,
foi.
Non, 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 mais
c'est pas cette foi-là. C'est, dont, manière, c'est voilà. pas de cette foi-là dont on
bien
parle.
Bien sûr, bien sûr. Mais donc il y a quand même la vie. Ce que disait Ralph, je l'entends. Il y a une foi. Jacques est un homme qui a la foi. Voilà. Et donc ça peut être, ne pas être compris. Voilà, tout simplement, parce que la foi. Comme le sacrifice, peuvent être refusés. Il y a des gens qui peuvent être opposés à l'idée de sacrifice, et je le comprends très bien. Je le comprends très bien, parce qu'on va dire, voilà, quoi, c'est comme tu l'as dit, christique et tout, on te cloue sur la croix pour les fautes des autres, des conneries. Voilà. Mais bon, moi, j'étais embrayé là-dedans, et je suis animé d'une certaine foi qui me dépasse, d'ailleurs, hein, parce que je ne crois pas en Dieu, pas du tout, mais pour autant, j'ai... J'ai une foi, ou la foi, ça fait très catholique, enfin, je sais pas comment
dire.
Mais j'ai une foi.
Mais c'est pour ça que c'est pas du tout voilà, ce qu'il y a dans le roman.
Non, pas du tout.
Prévenir,
non.
Mais effectivement, il y a ton personnage principal avance avec un désir fou et en même temps un côté. Alors, pour le coup, un côté suicidaire.
Oui. Mais.
Ce qui fait
en fait,
que
ce n'est pas du suicide.
Il traverse tout parce que en
par
fait,
amour.
C'est un trompe-la-mort. Il n'a pas peur de la mort. Il traverse tout.
Alors là, c'est pas. En fait, ce qui est vachement important pour moi de rebondir sur ce que tu as dit, il n'est pas suicidaire. Il mène sa mission. Comme, par exemple, les samouraïs, les attaques suicides que nous avions au Japon. Ce n'était pas suicidaire. C'était un acte. C'était une mission. C'était... Voilà. Mon héros, Jacques, il n'est pas suicidaire. Il doit... Il se sent investi. Il est investi d'une mission et il l'amène à bien, coûte que coûte. C'est en cela que c'est un héros, d'ailleurs. De roman.
C'est un héros de roman.
C'est un roman, voilà.
Ouais.
Mais pour moi, il n'est pas suicidaire. Il est, alors on pourrait dire, aveuglé. Aveuglé par l'amour. Oui. Aveuglé par sa mission. Par exemple, comme tu c'est, je ne vais pas jouer sur les mots, mais tu peux être aveuglé par un parfum. par un souvenir.
Ah ouais.
Hein, Proust. Allez, bing. ça démarre comme ça. Hein.
Ouais.
Donc, voilà, pardon.
Bon alors là parce que je sais que je dois te libérer parce que tu es libérable d'ailleurs.
Enlever les menottes.
Il faut que j'enlève les menottes. Qu'est-ce que tu nous prépares d'ailleurs
J'ai deux livres finis, un que je voudrais éditer post-mortem, c'est prévu comme tel, qui est la suite, on pourrait dire, du Cherokee de Cimetière d'étoiles, qui s'appelle Sentinelle d'argent. Il est fait.
Joli titre, ouais.
Voilà. J'en ai fait un autre qui a été validé par mon staff, mais je ne sais pas ce que j'en ferai. Et puis là, j'en écris deux en même temps, parce que comme j'étais un peu fatigué, c'est moins fatigant d'en écrire deux
Pour, non, mais quoi, t'écris la trame d'un et un...
J'écris un livre, et puis après, mettons tant de temps, et puis après j'écris l'autre.
Et tu reviens sur le premier ou non tu,
Oui, et puis le lendemain, je reviens sur le premier que j'écrivais, et puis je passe. Et là, depuis quelques jours, je me centre sur un des livres, parce qu'il sera très court, et je veux voir s'il tient la route ou pas.
Bon. Bon, bah, tu viens nous voir, hein, de toute façon.
Ouais.
Hein,
alors, je voudrais te remercier, Stéphane Allégret. Super chouette.
Ben, c'est,
je remercie merci Alain, toi, sur ma gauche, Richard. D'être passé.
Ouais, oui, j'ai beaucoup
lecteur.
Participé.
Ouais, mais tu étais là, donc on t'a pris la tête gratos. Puis je remercie les auditeurs, et puis voilà.
Bon, ben, la
mission. Et merci pour ce que tu m'as dit concernant un problème sur le livre.
Ah, ouais, mais c'est pas un problème de rédaction, c'est un
non,
problème.
Non, mais c'est vraiment un truc à revoir. Ouais, là, je suis un peu déstabilisé parce que je comprends pas le truc. Donc, il s'est passé un micmac, il faut que je
vérifie. Tu vas vérifier. Mais en fait, globalement, c'est vrai qu'à chaque émission, j'ai l'impression d'être tellement pointilleux, de dire ah, mais il y a ce truc-là, pourquoi il y a ça.
C'est de l'or.
Alors, bon, je suis un emmerdeur, mais c'est comme ça.
Attends. S'il n'y avait pas de bon lecteur, ça serait chiant. Hein.
Bon, mais de toute façon, je sens que tu vas rentrer à la maison et qu'il va vérifier. Mais,
oui, je regarde, je te dirai.
Je vais voir, parce que peut-être qu'il a loupé un truc, peut-être que c'est une vision de mon personnage,
etc. Il y a un gros problème.
Bon, tu verras bien.
Alors, je ne sais pas si ça vient de moi ou pas de moi, mais je vais régler l'affaire.
Bon, tu vas regarder. Richard, merci infiniment. Bah, puisque pour te laisser le temps de partir, on va écouter un titre que j'adore. J'ai déjà passé la dernière fois. C'est Orville Peck. J'adore, c'est Dead of Night. J'adore ce titre. Le mec, le chanteur est déguisé en Lone Ranger. C'est-à-dire qu'il a un masque, il veut pas montrer sa tête, donc il a un chapeau. Il a un masque. Et puis là, tu sais, comme dans la bande dessinée, le film d'ailleurs, le serial Lone Ranger, il a les franges, tu sais, devant le truc. J'adore ça.
Night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly, as we fly. Stark Hollow Town, Carson City lights. Baby, spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry. You say go fast, I say hold on tight.
See you.
sweet, sweet.
Bobo.
Cha cha cha.
Bobo.
Sweet, sweet.
Bobo.
Cha cha cha. Bobo Love, tu nous as manqué.
Manqué, effectivement, vu le courrier que j'ai reçu, j'en ai tout à fait conscience.
Bah oui, des sacs de courrier qui étaient à Radio Libertaire dans les studios qui t'attendaient.
Je répondrai à tout le monde.
D'accord, j'espère que c'était que des gens qui t'aiment.
Il y a beaucoup de demandes de photos dédicacées, effectivement.
Ce qui ne m'étonne pas. Alors, trois romans aujourd'hui que tu vas décrypter.
Passer au banc d'essai.
Oui, le banc d'essai. Le premier, c'est José Giovanni. José Giovanni, dont alors la série noire a décidé de puiser dans son stock.
Le stock tiens, comme c'est bizarre.
Oui, ils ont toujours les droits de certains titres, donc ils ont réédité déjà du McCoy, ils ont réédité du... Alors, en faisant des préfaces, etc. Ils ont réédité dans un même lot un Don Tracy, Bernard Schlink. On en a parlé d'ailleurs à la fin du mois d'août. Et ils ont réédité un José Giovanni. Et c'est quel titre de José Giovanni ?
Classe Tourisme. Mais avant de parler de ces trois livres, je voudrais faire, on l'a demandé, un bulletin météo du polar. Ça prend très peu de temps. Donc, désolé pour nos auditeurs qui ne verront pas la carte qui s'affiche. Cette image vue de l'espace illustre l'intensité de l'activité sur le bassin atlantique nord, de gauche à droite. Sur l'ensemble du territoire, on remarque toujours ce crachin de serial killer que rien ne semble vouloir épuiser. De haut en bas, on notera sans doute, en rapport avec le dérèglement climatique, une grosse dépression au niveau des nappes phréatiques de l'imaginaire, nappes qui sont actuellement sur presque tout l'hexagone au plus bas. Enfin, on nous avait annoncé il y a quelque temps la venue d'un ouragan Elroy, que dis-je, d'un cyclone Elroy de force 5, soit la force maximum. Mais, rassurez-vous, plus de peur que de mal, la tempête Elroy a sérieusement rétrogradé, à peine un pet sur une toile cirée. L'alerte rouge a donc été levée. Et pour terminer sur un bulletin météo, une note positive, indiquons que les températures sont en baisse avec toujours un fort courant venant des pays scandinaves, plus spécialement de Norvège, comme on le verra en fin d'émission.
Alors,
donc revenons à...
C'est étant dit, donc Giovanni, le vieux Giovanni, qui a auteur de romans, auteur de films, etc., dont tu nous délivreras quelques moments clés de sa carrière. La série noire ressort en format d'ailleurs série noire d'antan avec jaquette le José Giovanni avec une préface. Alors oui. Quel est le titre de ce Giovanni ?
Donc c'est Classe Tourisque, c'est le troisième roman publié à la série noire par Giovanni. À ce moment-là, l'auteur a 35 ans et donc il y a une préface effectivement de Luc Lariba. Seule différence avec l'édition originale, puisque là, il n'y a pas de retraduction, il n'y a pas de réécriture, c'est le même roman, simplement, avec une introduction. Cette collection de séries noires s'appelle d'ailleurs « Série classique », donc ils ont le projet de rééditer un tas de classiques.
C'est le patrimoine.
Oui, on peut dire le patrimoine, quelque part, de la série noire, mais en même temps, d'une partie du polar français, et donc tous les livres sont... agrémenté d'une jaquette illustrée photo. En l'occurrence, là, on a repris une photo du film, puisque ce Classe Tourisme, bon, les gens le savent sans doute, a été adapté au cinéma par Claude Sauté en 1960. Le roman a été publié, lui, en 58. Et donc, sur cette couverture, on voit Lino Ventura et Belmondo dans un de ses premiers rôles. Donc, l'intérêt de ce roman... Mis à part que Giovanni est un personnage extrêmement sulfureux, puisqu'il a eu beaucoup de démêlés avec la justice, beaucoup de problèmes pour des raisons de collaboration, mais aussi de grand banditisme. Il a même été condamné à mort, donc il a connu ce qu'on appelle le couloir de la mort, jusqu'à être gracié par le président de la République. Donc c'est quelqu'un qui a vécu des années en prison, et à un moment donné en pensant qu'il allait passer à la guillotine. Donc je pense que quelque part, ça a dû produire chez comme n'importe qui, certains séismes. Et c'est sur les conseils d'un ami qui s'est mis à écrire. Il vient d'une famille, en fait, qui était d'une famille corse, qui était très, très aisée. Ils avaient deux grands hôtels à Paris, mais le père avait aussi tendance à fricoter un peu avec la mafia. Donc, il a été condamné pour des problèmes de maison de jeu. Il a fini par perdre toute sa fortune. Donc, ce garçon est passé d'un milieu très, très aisé à un milieu beaucoup moins. Et il s'est retrouvé avec son frangin dans des affaires très, très louches. Bref. Donc, c'est l'intérêt de ce qu'il écrit, c'est que c'est un type qui a vécu, comme beaucoup d'auteurs de la série noire après-guerre, ce qu'on pourrait le comparer avec des gens un peu plus vieux que lui, par exemple Auguste Le Breton, qui lui a publié à la série noire à 40 ans, Lurififi chez les hommes, ou avec Albert Simonin, qui lui à 48 ans a publié Touchez pas au Grisby. Donc c'est une génération de gens qui ont eu un vécu, contrairement, on dirait, aux auteurs actuels qui sont principalement des intellectuels. Et là, c'est des gens qui ont eu un passé, qui ont fréquenté la pègre, puisqu'en France, c'est plutôt la pègre que la mafia, quoique à Marseille, ça peut être aussi un peu la mafia. Donc ces gens-là ont un vécu et apportent dans le roman policier de l'époque quelque chose de nouveau. Donc il y en a d'autres, évidemment, on pourrait citer Jean Mekert, qui sont pas forcément eux, qui n'ont pas forcément fréquenté le milieu, mais beaucoup d'auteurs qui viennent de milieux populaires. Et là, on voit que l'école, à l'époque, devait être extrêmement efficace, puisque tous ces gens-là qui ont passé à tout casser le... Je parle pour certains, comme oui, le comme Breton, le certificat d'études.
Comme Léo Mallet, qui avait juste le certificat d'études.
Par exemple, qui n'ont jamais été plus loin et qui se retrouvent être parmi les auteurs importants du roman policier français. Mmh. Donc, ce roman qui met en scène Abel Davos, c'est donc un malfrat qui s'est réfugié après pas mal de coups. Il a essayé de se réfugier en Suisse avec un de ses potes, Raymond Naldi. Et il est marié, donc il est réfugié avec sa femme et ses deux enfants. Donc il essaye plus ou moins de mener une vie normale, mais les choses se passent pas comme prévu. Il se retrouve à passer en Italie, et là, pour des problèmes de manque d'argent, il commet des hold-up, il braque des transports de fonds, et malheureusement, il a, disons, la gâchette facile. Et il se retrouve bientôt, après avoir liquidé des transporteurs de fonds, poursuivi par toute la police italienne. Ils vont réussir à s'échapper. Là, je raconte que le début du roman a passé en France. Et lorsqu'ils débarqueront clandestinement sur une plage de la Côte d'Azur, sa femme et son pote seront abattus. Et donc, ils se retrouvent maintenant en France, avec la police italienne, mais surtout la police française aux trousses. Et il a deux enfants avec lui. Et il espère s'en sortir grâce à l'aide des gens du milieu. Mais la plupart de ses amis, eux, sont vraiment rangés et n'ont pas vraiment envie de se mouiller pour le sortir d'affaires. Donc, ils délègueront un certain Eric Starr, qui est interprété dans le film par Belmondo, qui est censé, lui, lui venir en aide. Donc, c'est une espèce de cavale tout le long du roman.
Et dans le film, qui joue le rôle principal?
Le rôle principal, c'est Lino Ventura, donc, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un roman important dans la mesure où on peut maintenant juger ça avec recul. Bon, ça a été écrit en 58, ça fait près de 70 ans, donc on a le recul nécessaire pour voir l'importance qu'a eu les écrits de Giovanni, qui, parallèlement à ça, est devenu scénariste, et ensuite lui-même réalisateur de cinéma. Ouais. Donc... Qui dans certaines interviews, on lui reprochait son passé. Il expliquait que, bah oui, il avait eu ce passé, mais qu'il avait payé sa dette à la société, que normalement, quand on paye sa dette à la société, on est censé, non pas avoir effacé ses crimes, mais être réaccepté dans la société. Bref. Voilà, donc ça, c'est le premier bouquin. On change tout à fait. On n'est plus avec Richard Morgiev. On revient terre à terre. Là,
est-ce qu'il y a un extrait de ce roman que
le petit Nicolas devrait nous lire un petit extrait.
Alors, est-ce que tu peux nous introduire d'une certaine façon l'extrait que lire le petit...
Non,
le
parce que j'ai complètement oublié.
Très bien. Eh bien, à toi, Nicolas.
La Méditerranée, tout le monde connaît. Pour s'y être baigné, l'avoir longé ou admiré sur les cartes postales, elle est bleue, c'est évident. Et ceux qui vivent sur les bords ne donnent pas l'impression de plier sous les soucis. C'est curieux. On n'imagine pas qu'il puisse se passer un drame terrible dans un coin pareil. Quant à la petite ville frontière, sur les bords de la Grande Bleue, ça dépasse tout. Elle respire l'étendue, le lointain. Ceux qui la franchissent sont heureux pour la plupart de voyager. N'oublions pas que l'Italie fourmille d'amoureux en voyage de noces. La lune de miel est là. C'est connu, rabâché. Sous cette lune, on s'adore, c'est de bon goût. C'est l'endroit garanti, le parc à la roucoulade. À Vintimille, on y est presque. C'est déjà de l'autre côté, vers 5h de l'après-midi. À la terrasse d'un café agréable, il y avait des gens attablés devant des boissons vertes, oranges et jaunes. Rien ne désaltère davantage que la couleur. On entendait de la musique, des airs à la mode, qui vous aidaient à ne penser à rien du tout. Comme si penser devenait une tare, sous un soleil pareil. On s'habitue à la musique au point de ne plus l'entendre. Mais là, dès qu'elle se tait, on éprouve un vide, on tourne la tête à la recherche du son perdu. Ce fut le cas. Bien qu'une voix se mit à débiter en italien, ceux qui ne comprenaient pas la langue réalisèrent que l'événement était particulier en voyant la tête des autres. L'annonce se répéta en français. Le premier réflexe de Thérèse fut de se lever. Elle crispa sa main sur le bras du léger fauteuil d'osier. Elle se sentait pâle, le cœur barbouillé. « Ça va pas, maman ?» s'inquiéta Hugues. « Mais si, voyons, quelle idée » murmura-t-elle en achevant de boire son orangeade. Le speaker terminait en assurant que la force publique traquait déjà les assassins, qu'il s'agissait certainement d'étrangers et qu'ils ne pouvaient plus espérer franchir la frontière. L'affaire de Milan remontait à la surface et le rapprochement coulait de source. Thérèse désirait quitter cette terrasse de café pour marcher dans un endroit isolé, mais une lassitude momentanée la privait de force. Elle dévisageait ses fils dans l'angoisse où elle se trouvait de les savoir un jour au courant. L'aîné lui sembla impénétrable. Le plus jeune soufflait dans des pailles et le tube en papier qui les enveloppait volait à quelques mètres dans une trajectoire rectiligne avant de rejoindre mollement la chaussée. Il dénuda toutes les pailles et se mit à les plier en accordéon. Ensuite, il les jeta. Elle le regardait faire sans lui interdire un tel gâchis car sa pensée la transportait auprès d'Abel et de Raymond. Et elle voyait son fils comme dans un rêve. Il lui semblait même qu'elle ne pourrait pas le toucher en étendant la main. La Fiat s'était peut-être transformée en cercueil pour les deux hommes. Elle les imaginait tirant sur l'encaisseur et s'enfuyant au sein d'une foule stupéfaite d'abord, hurlant ensuite, avec peu après, toute la flicaille du pays à leurs trousses.
Voilà, c'était un extrait de ce roman de José Giovanni Clastouris que la série Noire réédite dans la série Patrimoine, même s'ils n'appellent pas ça la série Patrimoine. Alors, José Giovanni, un petit mot sur le camarade Giovanni, qui effectivement, on se souvient qu'ici même, à cette antenne et dans cette émission, une autrice très connue, nous avait, Dominique Moinotti, pour ne pas la citer, nous avait dit qu'elle voulait faire un truc sur José Giovanni, et en particulier sur son passé au sein de la Carlingue, mais que dès que les moindres médias ou moindres journalistes commençaient à enquêter sur la participation de José Giovanni à la Carlingue, il menaçait directement d'un procès, comme il avait une force de frappe financière un peu importante, les gens ne s'y risquaient point.
Oui, mais enfin, il y a quand même eu des livres écrits sur son passé, il y a eu des articles dans la presse... Suisse notamment, et puis Alfred Ebel, qui est, je viens de l'apprendre aujourd'hui, est décédé le 24 février de cette année, je viens seulement de l'apprendre, avait fait tout un article aussi sur...
Alors Alfred Ebel, il faut dire journaliste...
Éditeur, il a été éditeur, enfin bon, il faudrait peut-être faire une notule plus précise
on en parlera la prochaine fois.
Ouais. Donc pour revenir à Giovanni... Auparavant, la classe touriste qu'il avait donc pour nos auditeurs, quand même sorti en 1957 Le Trou, adapté au cinéma par Jacques Becker en 60, donc qui est un film sur son expérience en tôle, et en 58 Le Deuxième Souffle, adapté par Melville, et ensuite par Alain Corneau, donc Melville en 66, Alain Corneau en 2007. Donc c'est un qu'on le veuille ou non, indépendamment de ce personnage, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très important, tant au niveau de l'écriture que du cinéma. Là, je parle évidemment
bien sûr, oui,
de Polar. Il ne s'agit pas de dire que c'est un auteur littéraire, ce n'est pas Proust ni quoi que ce soit. On est dans le genre de la littérature policière.
Et c'est vrai que ça a été un personnage important de cette époque-là, en tout cas. Même si aujourd'hui, je ne sais pas si justement les auditeurs qui se plongeraient dans du José Giovanni ne trouveraient pas ça un petit peu vieillot.
Bah, c'est difficile de répondre. Moi, je me garderais de donner une note, par exemple, puisque avec le recul, on va pas se mettre à noter Alexandre Dumas, Victor Hugo, ou, bref. Donc, la seule chose qu'on peut constater, c'est notamment, je pense que ses films sont peut-être plus connus maintenant que ses romans, mais il a c'est plus ses propres films, donc il a eu une carrière extrêmement féconde, et on ne peut que constater l'importance, c'est-à-dire, il a ouvert, pas tout seul, avec d'autres, comme j'ai cité, par exemple... ou Simonin ou Le Breton, puisque Simonin, pour rappeler à nos éditeurs, il s'est touché pas au Grisby. Là, il y a toute une série derrière. Auguste Le Breton, c'est du rififi chez les hommes. Tout ça, c'est des grands. Ça donnait des grands films du polar français. Donc, on peut dire que la série noire, en créant cette collection de classiques, peut-être pour les nouvelles générations, remettre en lumière certains auteurs qui le méritent.
Oui, ouais, on a relu récemment Le Don Tracy, qui est un super, c'est un super auteur de romans noirs, et c'est vrai que c'est pas mal de rééditer les choses qui ont un petit peu disparu. Alors justement, sur ce roman-là, tu trouves qu'il a vieilli? Tu trouves que ça tient la route? Qu'est-ce que t'en penses?
Je trouve pas qu'il a... Ça traduit une époque, donc ça se... ça a moins vieilli que Fantômas, c'est sûr, puisque c'est une écriture quand même, l'écriture de la littérature française d'après-guerre. Bon, il y a une différence entre ce qui s'est... Bon, une différence, et encore, il y a des auteurs d'avant-guerre qui sont des super cadors, mais je parle au niveau polar. Là, il y a un changement d'écriture au niveau des romans policiers. Je parle bien, j'insiste sur les romans policiers.
Mais souvent, pas seulement sur les descriptions, mais souvent sur les dialogues que se joue le coup de vieux que peuvent prendre les polars.
Là, c'est pas le cas parce que Giovanni, lui, n'est pas dans la langue verte. Il utilise très peu la langue verte, contrairement à Le Breton et Simonin, qui effectivement ont une langue verte de l'époque et qui maintenant, les gens, c'est pas suranné, mais les gens comprennent plus. Et à ce sujet, le premier roman de Le Breton avait été préfacé par un poète qui s'appelle Marcel Sauvage. Et voilà la remarque qu'il faisait en 1953 dans sa préface, en parlant du milieu, puisqu'il s'agit d'auteurs qui parlent du milieu. Des écrivains de bonne bouche et de romantisme léger ont si bien fait que le monde familier des voyous, le tableau artificiel qu'ils ont réussi à nous imposer avec la rengaine d'usage, a pris peu à peu un aimable et ignoble petit air d'opérette. Le ton est plat, facile, neutre, les couleurs un peu trop sans danger. Et donc, ce qui l'applaudissait chez Le Breton, c'est justement un retour au réalisme, à la verve, c'est-à-dire décrire le milieu, non pas comme un intellectuel qui n'y a jamais été, mais comme des gens qui s'y sont frottés. Donc, quelque part, bien en arrière, puisque tout ça c'est du roman, il y a quand même un côté un peu vécu, témoignage, même s'ils inventent des histoires abracadabrantesques.
Bon, alors, le temps tourne, malheureusement. Donc, on va écouter une musique qui correspond au bouquin de Giovanni.
Nous allons entendre la bande, la BO, une petite partie de la BO du film, écrite par Delerue, de Classe Touriste.
Retour de Bobolov sur dans Bulle Noire sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans rendu ni maître, et la radio que vous pouvez soutenir d'ailleurs en nous envoyer, en l'occurrence, vous pouvez nous envoyer votre soutien.
Des chèques donc.
Des chèques donc. Au 145 rue Amelot, dans le 11e, chez Publico.
À l'ordre de.
À l'ordre de Publico, évidemment, où vous pouvez faire une manipulation pour nous donner un petit peu de sous chaque mois. Voilà. Et ça, c'est. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Bobo, on passe à au fameux Joe Nesbo. Tu parlais tout à l'heure d'Elroy.
Nous passons à Liane Levison.
Liane Levison, pardon. Alors, Liane Levison, qui vient de publier un roman chez...
Avec un titre magnifique, chez Liana Levy. Donc, ouais. Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques.
Alors, un bouquin qui commence de façon très drôle. Il faut dire que c'est un polar... qui se veut une comédie plutôt.
Oui, enfin c'est pas un roman noir, c'est un roman dans la veine de Westlake ou des auteurs qui traitent les sujets avec un petit peu avec de l'humour.
Alors Levison, il faut dire que c'est un anglo-saxon qui écrit un truc qui se passe aux États-Unis, tout ça pour décrire un petit peu et pour dénoncer le système, d'une certaine façon, dénoncer le système judiciaire américain.
Oui, entre autres, c'est-à-dire, il s'est amusé, c'est un auteur d'origine
écossaise.
Son père a quitté sa famille quand il était enfant pour aller aux États-Unis. Donc, il a vécu un peu dans la misère avec sa mère. Et grâce aux aides financières, aux aides sociales. Et cette famille s'est reconstituée aux États-Unis. Et là, il a vécu plutôt le côté riche, parce que son père avait réussi. Et il attribue souvent son expérience de l'extrême pauvreté, de l'extrême richesse, alors qu'il était encore enfant, à son point de vue unique sur la façon dont l'économie nationale affecte les individus. Donc, il a fait des études, il est devenu prof il est diplômé de l'université de Villanova. Il a obtenu un diplôme d'anglais qui a servi de base à son premier succès commercial, A Working Stiff's Manifesto. Donc, c'est un bouquin qui relate ses expériences, puisqu'il a dû faire 42 métiers avant de pouvoir vivre parce qu'il ne vit pas de sa plume, plutôt de sa fonction. Donc, c'est un auteur qui a beaucoup plus de succès en France qu'aux États-Unis. C'est pas le seul, puisque, par exemple, on a un certain James Ellroy qui est beaucoup, beaucoup plus reconnu, non seulement en France, mais en Europe, mais lui a un degré beaucoup, beaucoup plus moindre. Tous ses romans ont été publiés par Liana Levy, et ce roman qui sort en France, donc intitulé Les stripteaseuses ont toujours besoin d'un conseiller juridique, n'a pas été publié encore aux États-Unis. Donc, c'est l'édition originale mondiale. Et le titre original de ce livre, c'est The Whistleblower, qu'on peut traduire de deux façons, le lanceur d'alerte ou la balance. Roman qui met en scène donc un avocat qui a fait des études dans une université prestigieuse, qui a intégré un cabinet prestigieux, qui a un CV monstrueux, qui est super coté. Tout le monde se l'arrache. Et il travaille dans un cabinet qui gère les affaires d'un gros groupe agroalimentaire qui s'avère être, comme beaucoup de ces groupes maintenant, des pollueurs de première. Donc, ils ont notamment des sites où ils élèvent des cochons. Ces cochons libèrent de l'urine, comme tous les animaux, mais rien n'est traité, rien n'est pris en charge, et tout ça risque de tourner à la catastrophe écologique. Il y a un type dans la boîte qui écrit tout un rapport pour annoncer ce qui pourrait se produire en cas de pépin. Ce rapport est enterré, et au final, il y a un ouragan qui tombe sur la ville, c'est à Burbank, et à ce moment-là, tout pète et tout le lisier, toutes les saloperies toutes les fesses et les urines des cochons se répandent dans toute la nature et ça provoque des maladies pas possibles, etc. etc. Notre héros retrouve ce fameux manifeste et à partir de là, d'un seul coup, il pète un câble dans le sens où il se dit bah, c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça. Et il se retrouve lanceur d'alerte à dénoncer ce qui s'est passé. Bien mal lui en a pris, puisqu'elle a évidemment, il est expulsé, liquidé, et il se retrouve à la rue, et plus aucun cabinet ne veut le toucher avec des pincettes. Donc sa seule façon de pouvoir continuer à exercer son métier, c'est de rejoindre le système de juridiction pour les pauvres.
Les commis d'office.
Les commis d'office. Et il va passer son temps à défendre
la veuve et l'orphelin.
Et surtout, puis les des poivreaux, des SDF, enfin, que des gens. Ça lui bouffe toute sa vie, parce que comme c'est quelqu'un de sérieux.
Et puis, qui a fait une école prestigieuse, donc il s'attendait à autre chose dans sa carrière que de se retrouver à faire les nécessiteux.
C'est ça. Donc, en tout cas, il fait son travail à fond. Jusqu'au moment où on lui fait savoir qu'un certain Marcus, qui possède un club de striptease à la lisière de la ville, on est à Philadelphie, ça se passe à Philadelphie, et un motel juste en face, dans une zone qui est en expansion, on lui demande de venir tout simplement une heure par semaine, pour $1,000 payés en espèces, dispenser des conseils juridiques à ces dames qui dansent, qui
les effeuilleuses,
ou qui font du pole dance plutôt, c'est surtout du pole dance plutôt que de l'effeuillage. Donc il se dit bon, après tout, pourquoi pas, il accepte, et en même temps lui dit aussi, mais le jour où vous venez chez nous, vous devez coucher absolument au motel en face, vous garez votre voiture devant la chambre que vous occuperez, et on a besoin d'ailleurs du double de vos clés, parce qu'on mettra dans le vide-poche de votre voiture, une enveloppe avec les $1,000 toutes les semaines. Bon, ça c'est le point de départ, donc il se retrouve avec ces $1,000, après tout, compte tenu de sa vie qui est tellement prise par son travail, il n'a même pas le temps d'en profiter, mais il pourrait...
Il faut dire que le premier soir, il rappelle dans la boîte, et qu'il pense qu'effectivement il doit être utile et qu'il y a plein de nanas qui vont venir le voir pour solliciter ses services juridiques.
Or,
mais en fait, les nanas arrivent et ne sont pas spécialement demande.
Non, pas spécialement de problèmes, mis à part une ou deux. Mais enfin bon, lui, il se retrouve dans un milieu qu'il ignorait totalement, toutes ces femmes qui se dénudent, qui sont toutes très jeunes et très sympathiques. Bon,
Il reste très professionnel
tout
quand même.
Tout ça en restant, oui, absolument. Il ne fait pas. Il est professionnel. Mais rapidement, il va comprendre qu'il n'est pas le seul. Dans ce même motel, il y a un plombier qui lui aussi passe une heure dans ce club. Et une femme qui a l'air très bourgeoise et très bien mise, qui elle aussi passe une heure dans ce club. Donc tout le monde va se demander, bien entendu, mais de quoi s'agit-il ? Ben, on n'ira pas plus loin, sinon...
On dévoilerait trop du livre.
Et tout ça raconté avec un ton humoristique. Et surtout... En insistant, en fait, c'est une espèce de prétexte pour dénoncer, parce que l'auteur est très, très concerné par toutes les déviances, disons, des États-Unis. Donc, ou les déviances, ou le système américain. Donc, à travers ce livre, il met à nu tout un pan de la justice américaine qui concerne, encore une fois, les LOCDU, les SDF, les pauvres, vraiment le bas, les gens qui ne peuvent pas se défendre, qui ont besoin d'une aide juridictionnelle. Donc, chacun de ces livres, il y a un côté comme ça, un regard sur la société qu'il aborde à travers un prétexte policier. Voilà.
Bon, mais
on va peut-être écouter un petit
peu de musique. On va avoir beaucoup de mal parce qu'il est quand même déjà 18h56. Ah, oui. On a pris beaucoup de retard.
Alors vite, je vais vite faire ma critique en vitesse. Donc, juste j'ouvre une parenthèse. Grâce à ce livre, on apprend quand même page 100 qu'en Californie, les abeilles sont devenues des poissons. J'ouvre la parenthèse. Les espèces d'abeilles et de bourdons sont désormais classées dans la catégorie des poissons en Californie. Donc, comme quoi tout est possible. Selon un jugement d'une cour d'appel de l'État rendu à la fin mai en 2022, cette nouvelle classification, pour le moins surprenante, a pour objectif de protéger ces insectes pollinisateurs parce qu'il n'y a pas de crédit pour sauver les abeilles. Donc, on utilise les crédits pour les poissons pour sauver les abeilles. Je ferme la parenthèse. J'en reviens au roman. Roman écrit à la première personne. Il y a un bon début. L'auteur est plus intéressé par le portrait qui brosse de cette justice pour les pauvres que par son intrigue très tirée par les cheveux, surtout dans son dernier quart. Donc le problème, c'est que le lecteur a deviné dès le topo l'histoire. Donc on est en avance sur le héros. Le
personnage principal, ouais.
C'est un peu répétitif, il y a des rebondissements exagérés, il y a un tas de choses qui sont pas bien, qui collent pas vraiment. Et le meilleur, je dirais cela avec un zeste d'ironie, c'est en fait le titre français « Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques ».
Il y a quand même dans ce roman une ambiance. Le bouquin, on se dit, ça pourrait faire...
Il y a une partie très réussie.
On pourrait faire un film très rigolo, une comédie policière assez amusante ce bouquin.
C'est le
problème. Ça marche assez bien.
Au niveau de l'intrigue policière, il y a tellement de choses qui déconnent, ça aurait dû être resserré.
Mais en même temps, c'est une comédie policière. Tu l'as dit toi-même.
Peut faire une comédie ça déglingue.
Mais lui, ce qu'il veut, c'est... D'ailleurs, tu viens de le dire, il veut se foutre de la gueule du système américain qui fonctionne un petit peu à l'envers et où il n'y a aucune logique et ça dépend un peu de la manipulation des informations et de la manipulation des règles qui ont été édictées qui sont dans le code civil ou dans le code pénal. À côté de ça, ses rapports, par exemple, avec une des nanas qui fait son show dans le truc,
ce que je critique, c'est l'intrigue policière qui est extrêmement mal foutue, qui aurait dû être corrigée. Il y avait une idée, mais c'est pas ça. Ça paraît tellement en tant que lecteur, si on sait déjà toute l'histoire. Au premier cinquième, y a quelque chose qui ne va pas. Là. En principe, quand tu fais un polar, tu essayes d'emmener le lecteur jusqu'au bout. Bon, là, on a des doutes, et puis les doutes se vérifient au fur et à mesure. Il y a trop de trucs qui déconnent. Mais je dirais... Je vais donner une note. La note du professeur, ça serait 2,5, et le ressenti, ça serait 3. J'ai pris du plaisir à lire ce livre, je le recommande, oui, c'est un livre sympatoche.
Alors dis-moi Bobo, est-ce que tu es d'accord pour revenir samedi prochain pour nous faire le téléphone carnivore?
Oui, parce que ça demande quand même qu'on en parle un petit peu.
Donc moi je te propose qu'on prenne rendez-vous le 5 octobre. Est-ce que tu es d'accord?
Oui.
Tu t'engages devant les auditeurs de Radio Libertaire?
Oui, absolument, et alors j'aimerais bien qu'on écoute quand même un petit bout de la musique de ce livre, puisque normalement on est censé écouter Bruce Springsteen, Born to USA.
Et ben voilà, ça va faire la jonction avec la tribuna, je crois que c'est la tribuna latino-américana. Le petit Nicolas et moi-même, et Bobo Love d'ailleurs, on vous remercie d'avoir écouté cette émission.
Pour
votre gentillesse, votre patience, j'espère que ça vous a plu. On n'a pas écouté beaucoup de musique, mais après tout, pourquoi pas, du moment que la musique est bonne.